Radio Prague, les informations. Bonjour, le 49e Festival international du film s'ouvre ce vendredi à Karlovy Vary. Capitaines européennes de la culture en 2015, Pelzaigne et Mons préparent plusieurs projets tchéco-belges. Et puis enfin, la presse allemande salue le retour à la normale des relations tchéco-bavaroises. Plus grands événements de l'année pour les amateurs de cinéma en Europe centrale et de l'Est, le 49e Festival international du film de Karlovy Vary débute ce vendredi soir dans la cité thermale. Lors de la cérémonie d'ouverture, l'acteur et réalisateur américain Mel Gibson se verra remettre un bloc de cristal pour son apport artistique exceptionnel à la cinématographie mondiale. Cet honneur fait à Mel Gibson a été vivement critiqué par la communauté juive tchèque. Par ailleurs, l'actrice française Fanny Ardant ou encore le réalisateur sud-coréen Yoon Ho-bong font partie des autres principaux invités du festival qui refermera ses portes le 12 juillet. Plus de détails sur le sujet dans quelques instants dans les faits événements. Toutes deux capitales européennes de la culture en 2015, les villes de Pelzaigne et de Mons préparent quatre grands projets communs. Une représentation en coproduction du Burois, une pièce d'Alfred Jarry est notamment prévue comme une coopération de deux lycées sur un projet dramatique intitulé En 2015, j'aurai 20 ans, une présentation de la musique classique contemporaine tchèque et belge et des deux villes est également envisagée. Dans ce cadre, Pelzaigne accueillera notamment l'ensemble musique nouvelle. Le projet Pelzaigne 2015 débutera le 17 janvier, celui de Mons une semaine plus tard. La visite jeudi en République tchèque du ministre-président de la Bavière, Horst Seehofer, illustrerait un retour à la normale des relations tchéco-bavaroises pour la presse allemande. Surtout cette visite, la troisième depuis 2010, quand pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, un ministre-président de Bavière s'est rendu chez le voisin tchèque, comporterait une différence de taille par rapport aux précédentes. En effet, Horst Seehofer n'était cette fois pas accompagné du représentant des Allemands des Sudètes, car c'est notamment la question des Sudètes qui est source de tensions depuis les années d'après-guerre avec les décrets Benesch qui expulsèrent les populations allemandes de Tchécoslovaquie. Pour le quotidien Die Welt, cela montrerait le pragmatisme de Horst Seehofer, puisqu'il n'a pas été question du passé, mais de sujets bien actuels, tels que la lutte contre le trafic de drogue ou la possibilité d'une liaison ferroviaire entre la Bavière et la République tchèque. Au lieu de pèlerinage en République tchèque, Velehrad, en Moravie du Sud, accueille depuis ce vendredi les Journées des gens de bonne volonté, une des plus importantes manifestations religieuses de l'année. Pour cette édition 2014, le thème retenu a été celui de l'importance de la famille. Et chaque année, des dizaines de milliers de personnes participent aux célébrations organisées à l'occasion de la venue en Grande-Moravie des saints Cyril et Méthode, les frères apôtres slaves qui ont évangélisé l'actuelle République tchèque et la Slovaquie. Ce samedi, jour de fête nationale, une messe en plein air sera notamment célébrée. Et puis on passe au sport et au tennis. Malgré la concurrence de la Coupe du Monde de football, l'événement sportif le plus suivi en République tchèque ce samedi sera la finale du simple dames du tournoi de Wimbledon. Déjà vainqueur sur le gazon londonien en 2011, pour ce qui reste le seul titre du grand chelem de sa carrière, Petra Kvitova sera opposée à la Canadienne Eugénie Bouchard, présente à ce stade de la compétition pour la première fois de sa carrière. Sixième mondiale, la Tchèque, qui a éliminé trois de ses compatriote depuis le début du tournoi par légèrement favorite. Et puis on termine comme toujours avec un mot de météo. Après deux journées de jeudi et vendredi très ensoleillées, les nuages sont de retour ce samedi, jour de fête nationale, on l'a dit, essentiellement dans une grande moitié ouest du pays. La Moravie, elle, profite encore d'un ciel relativement dégagé. Quant aux températures, elles varient entre 25 et 29 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Qu'a eu le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Merci également de rester en notre compagnie et plus précisément en la compagnie de Alexis Rosenzweig pour la suite de notre programme. Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous, Alexis Rosenzweig au micro. Bienvenue à l'écoute du programme en français de Radio Prague, le dernier programme de la semaine avant les émissions du week-end. Et aujourd'hui, au sommaire du sport et du cinéma d'abord, avec le début ce vendredi du Festival international du film de Carlo Vivari, du sport avec du tennis et Wimbledon, le succès des Tennis Women Tchèques. Ce sera Pierre Maignan qui vous en parlera dans un instant. Et juste après, ce sera le miroir de la société avec la revue de presse hebdomadaire proposée par Alena Gebertova. Très bonne écoute. Et du cinéma d'abord, pour la 49e fois, le premier week-end du mois de juillet sera consacré à l'ouverture dans la célèbre station thermale de Carlo Vivari en Bohême de l'Ouest, du plus important festival du film d'Europe centrale et orientale. La vedette de la cérémonie d'inauguration débutant la soirée de ce vendredi sera l'acteur et réalisateur américain Mel Gibson. Le tapis rouge verra défiler entre autres l'actrice française Fanny Ardant, devenue réalisatrice, ou encore le réalisateur sud-coréen Jun Ho Bong. Et c'est Sonia Yaroshova qui vous apporte plus de détails et un bref aperçu du riche programme qui s'achèvera le 12 juillet prochain.
C'est le drame de science-fiction américain High Origins qui ouvrira cette 49e édition du Festival international du film de Carlo Vivari en présence du réalisateur Mike Cahill et des protagonistes Michael Pitt et de sa collègue française Astrid Berge-Frisbee. Une autre star américaine brillera lors de la remise du Globe de Cristal pour la contribution au cinéma mondial lors de la cérémonie d'ouverture. Nous écoutons Jiří Bartoška, le président du festival.
Réalisateur, scénariste et producteur, détenteur de deux Oscars, d'un Globe d'Or et d'une trentaine d'autres prix. Et donc le nôtre sera le 31e. Il s'agit de Mel Gibson. Il va se voir décerner un Globe de Cristal pour sa contribution exceptionnelle à la cinématographie mondiale. Il n'arrive pas en tant qu'acteur, mais pour présenter son dernier long métrage, le drame mystique Apocalypto. Toutefois, le jour de l'ouverture du festival, les visiteurs et les participants pourront assister dans le cinéma en plein air à partir de 23h à la projection de son film culte Mad Max.
Une autre personnalité du grand écran qui va assister au festival, non pas comme actrice mais comme réalisatrice, sera Fanny Ardant, qui présentera à Carlo Vivari son troisième long métrage, Cadence obstinée. Le cinéma francophone sera ensuite représenté par la mini-série Petit Quinquin de Bruno Dumont, la comédie Du goudron et des plumes de Pascal Rabaté, ou encore le drame Je suis à toi du Belge David Lambert. Une attention particulière sera accordée au 7e art italien, avec notamment un remarquable documentaire sur Bernardo Bertolucci ou un hommage au réalisateur Elio Petri. Le cinéma européen, mais cette fois-ci non plus continental, sera à l'honneur avec une grande rétrospective de l'artiste du visuel, le réalisateur britannique Ben Rivers, connu pour ses courts-métrages expérimentaux. Il nous est présenté par Karel Hoch, directeur artistique du festival.
C'est un
traditionnaliste du cinéma, il tourne avec une caméra 16 mm. Donc quand nous avons annoncé cette rétrospective à nos techniciens de projection, ils étaient ravis puisque de nos jours, où le cinéma est presque exclusivement en format numérique, nous reviendrons à 7 reprises au format classique. Ce sera une expérience esthétique tout à fait intéressante.
Les jeunes talents ont également leur place au festival de Carlo Vivari, plus particulièrement dans la section Works in Progress. Directeur exécutif du festival, Christophe Mucha, nous en dit plus.
Le principal objectif, c'est de présenter aux sélectionneurs qui travaillent pour les festivals comme Sundance, Berlin ou Toronto, les films de la région centre et est européenne. Ils peuvent visionner ces films avant qu'ils ne soient complètement finalisés et leur assurer la promotion dont ils peuvent eux-mêmes bénéficier ensuite, ce qui est très important pour eux. Lors de l'édition précédente, deux films ont été présentés à Toronto, à Berlin et au festival de Sundance. C'est un projet vraiment très réussi.
Toronto, v Berlíně a v Sundance, takže velmi, velmi úspěšný.
La production tchèque ne manquera bien évidemment pas non plus à l'affiche, avec notamment les films Gira ou Hanušovice de Miroslav Krobot et Fair Play d'Andrea Sedláčková en compétition officielle. Les inconditionnés des classiques ne devraient pas rater une projection spéciale de l'un des deux seuls films tchèques récompensés par un Oscar, Les trains étroitement surveillés, remasterisés. Ce sera une projection spéciale, comme le souligne Jiří Bartoška.
À la projection ce samedi à 14h dans la grande salle de l'hôtel Thermal assistera toute une délégation. Il y aura le réalisateur Jiří Menzel, le caméraman Jaromír Schoffer, Květa Fialová, Jitka Zelenohorská, Václav Neckář, Nadia Urbanková devrait également être là. Bref, une délégation assez représentative des trains.
La cérémonie de clôture se déroulera le 12 juillet avec la publication du palmarès.
On passe au sport maintenant et comme promis au tennis. La journée de Wimbledon a été marquée jeudi par une demi-finale 100% tchèque dans le tableau simple féminin. Et c'est Petra Kvitova qui, face à sa compatriote Lucie Šafářová, a su tirer son épingle du jeu en 2-7, 7-6, 6-1. Vainqueur du tournoi déjà en 2011, la meilleure joueuse tchèque tentera samedi de remporter un second titre sur le gazon londonien face à la canadienne Eugénie Bouchard. Et c'est Pierre Maignan qui nous en parle tout de suite.
Petra Kvitova a remporté le duel des Tchèques ainsi que l'écrit le quotidien français L'Équipe et file donc vers sa deuxième finale du tournoi de Wimbledon et peut-être vers sa deuxième victoire. Tout n'a pas été simple pour autant face à une Lucie Šafářová, accrocheuse dans le premier set mais qui a craqué dans le second face à la qualité de service de son adversaire. Âgée de 27 ans, Lucie Šafářová était malgré tout très satisfaite de sa performance.
Elle a très bien débuté le second set et je n'ai jamais pu revenir dans le match. Aujourd'hui, je n'ai pas fait grand-chose de mal. J'ai tout donné et profité du fait que je jouais pour la première fois sur le court central. Je pense qu'attendre les demi-finales de Wimbledon est un très beau résultat. C'est en tout cas le meilleur de ma carrière pour l'instant. Je suis heureuse d'avoir pu aller aussi loin et j'espère que ce n'était pas la dernière fois.
Jsem ráda za to, že jsem se vůbec takhle dostala daleko a doufám, že to nebyl poslední.
Avant Lucie Šafářová, Petra Kvitová a déjà dû se défaire d'une autre de ses concitoyennes en quart de finale, Barbora Zahravová-Strýcová. Les trois femmes se connaissent et sont habituées à jouer ensemble puisqu'elles sont régulièrement coéquipières en Fed Cup, dont elles ont d'ailleurs remporté les éditions 2011 et 2012 et qu'elles affronteront l'Allemagne en novembre pour tenter d'empocher un troisième titre. À Wimbledon, il a fallu mettre l'amitié de côté et à ce jeu, c'est Petra Kvitová qui s'en est le mieux tirée.
Je dois dire que les matchs avec Vinas, Barbora et ce jeudi avec Lucka ont été parmi mes meilleurs. Lucka a sans doute été l'adversaire la plus difficile à battre quand elle n'a pas arrêté de m'attaquer sur ma ligne de fond. Je n'en pouvais plus. J'ai vraiment dû réaliser une grosse performance pour réussir à la battre.
Face à Eugénie Bouchard, étoile montante du tennis canadien, qui a tout juste 20 ans, jouera samedi sa première finale de Grand Chelem, Petra Kvitová affirme ne pas se sentir favorite. Le palmarès de la Tchèque, qui pointe aujourd'hui à la 4e place mondiale, est pourtant déjà riche de ce titre londonien obtenu en 2011 face à la Russe Maria Sharapova en 2-7, 6-3, 6-4. Mais depuis, la joueuse de 24 ans n'est jamais réellement parvenue à retrouver son meilleur niveau de jeu. Petra Kvitová ne se satisfera toutefois pas d'une défaite en finale.
C'est super de jouer une demi-finale ici à Wimbledon, mais je ne voulais pas m'arrêter là. Je ne me suis pas dit que j'allais profiter du moment, mais j'ai joué ce match pour le gagner et cela s'est bien passé. C'est comme ça que j'aborderai la finale.
Pour Martina Navratilova, qui a remporté à 9 reprises le tournoi de Wimbledon entre 1978 et 1990, il ne fait en tout cas guère de doute que les amateurs de tennis de nationalité tchèque devraient cette fois-ci ne pas tergiverser longtemps avant de savoir qui supporter dans cette finale.
Merci à Pierre pour ce compte-rendu de la dernière journée de Wimbledon. On passe maintenant au miroir de la société, une rubrique hebdomadaire qui, vous le savez, vous est proposée régulièrement par Alena Gebertova, qui a choisi aujourd'hui d'abord de parler de tourisme en premier sujet, et puis ensuite de l'Ukraine, la manière dont le conflit en Ukraine influence les touristes tchèques qui renoncent à se rendre en Ruthénie, située en Ukraine occidentale, une région qui était une de leurs destinations estivales traditionnelles. Et puis Alena évoquera certaines légendes qui sont liées à l'écrivain Franz Kafka, dont les traces à Prague demeurent toujours recherchées par une grande partie des touristes étrangers. Et s'agissant des traces, elle évoquera également celles par lesquelles les Tchèques sont liés à Sarajevo, en Bosnie. Elle rappellera également le centenaire de la naissance du grand chef d'orchestre tchèque, Rafael Kubelik. C'est donc le miroir de la société, tout de suite avec Alena Gebertova.
Miroir de la société à la lumière de la presse.
Une des dernières éditions du quotidien Les Domaines Ovenés offre un autre regard sur la situation dramatique en Ukraine, en informant des retombées que celle-ci a eues sur le tourisme, dans sa partie occidentale, la Russie subcarpatique, appelée aussi la Ruthénie. Partie intégrante de l'ancienne République tchécoslovaque avant la Deuxième Guerre mondiale, cette région est aujourd'hui une des destinations privilégiées par les touristes tchèques. Ce sont notamment les alentours de la ville de Koločava, rendue célèbre par le roman populaire de l'écrivain tchèque Ivan Olbracht, Nikolašovi le Brigand, qui sont très recherchés. Le journal précise.
Les Tchèques sont connus comme des touristes et des voyageurs audacieux qui n'hésitent pas à visiter les endroits que d'autres étrangers évitent. Pourtant, en dépit du calme qui règne, contrairement au conflit en Ukraine orientale, dans la partie occidentale de l'Ukraine, la Ruthénie, les touristes tchèques ont désormais peur de s'y rendre. Ceci touche lourdement ses habitants, la majorité des familles qui habitent à Koločava, vivant principalement du tourisme, dont elles sont entièrement dépendantes. D'habitude, dès le mois de juin, les pensions et les hôtels locaux sont pleins, tandis qu'à ce jour, aucun touriste tchèque ne s'y est encore rendu.
Le journal cite Natalia Tumartseva, lauréate du prix Gracias Agit pour la promotion de la République tchèque à l'étranger, qui est la propriétaire d'une pension et d'un restaurant qui insiste.
Nous sommes situés près de la frontière avec l'Union européenne et pas près de celle avec la Russie. On ne risque aucun conflit ici. Par ailleurs, l'Union européenne ne le permettrait pas.
C'est après la chute du régime communiste que les premiers touristes tchèques ont découvert la Russie subcarpatique, se contentant d'abord de conditions très austères qu'elle offrait. Aujourd'hui, les nouvelles infrastructures permettent d'accueillir des expéditions organisées par des agents de tourisme, des expéditions scolaires, des visites en famille. Le journal note également qu'une douzaine de musées sont établis à Koločava qui retracent l'ancienne histoire commune des Tchèques et des Ruthènes. D'ailleurs, encore aujourd'hui, il est possible de communiquer avec certains habitants en tchèque. Dans le même journal, on a pu lire aussi un article intitulé « Comment les Tchèques ont colonisé la Bosnie » qui se penche sur la présence des Tchèques à Sarajevo. Selon son auteur Jiří Peňaz, qui se réfère à une publication nouvellement parue consacrée aux traces tchèques dans cette ville, il constate que plus de 7000 Tchèques vivaient dans la capitale de Bosnie-Herzégovine avant la Première Guerre mondiale. Il constate en même temps que des traces tchèques à Sarajevo existent toujours et qu'elles sont incontournables, il précise.
Ces traces, vieilles de plus de 100 ans, sont inscrites notamment dans la pierre. Elles sont en rapport avec l'occupation autrichienne, respectivement avec l'annexion de la Bosnie, qui a offert l'occasion à des milliers d'experts tchèques, et pas seulement à ceux-ci bien sûr, d'améliorer la vie dans un milieu exotique et pourtant proche, car il s'agissait finalement d'un pays slave. L'action tchèque a trouvé en premier lieu écho dans l'architecture de Sarajevo, car il y a lieu de constater que l'architecture moderne de Sarajevo est principalement l'œuvre de l'architecte tchèque Karel Pařík.
Jiří Peňas remarque que Pařík est probablement l'unique architecte à avoir travaillé dans une même capitale sur des projets destinés à des confessions variées, orthodoxes, catholiques, musulmanes, évangéliques et juives. Une raison de plus pour lui d'apprécier à sa juste valeur tant son œuvre que sa personnalité. L'article rappelle également que l'attentat de Sarajevo lui-même comporte une dimension tchèque, en notant.
Avant de se rendre en Bosnie, c'est au château de Konopiště et de Chlum, près de Třeboň en Bohême, que François Ferdinand séjournait avec sa famille. L'automobile avec laquelle il voyageait à Sarajevo appartenait à l'aristocrate tchèque František Harach. Et c'est aussi un tchèque, Leopold Lojka, qui l'a conduite.
La saison touristique dans la capitale tchèque battant son plein, un article publié dans l'avant-dernière édition du magazine Partek remarque qu'il y a toujours beaucoup de touristes étrangers qui viennent à Prague et qui souhaitent suivre les traces de Franz Kafka, bien que par rapport aux années précédentes, leur nombre commence tout de même à diminuer. À cette occasion, le magazine évoque les deux légendes les plus répandues liées au célèbre écrivain. Il écrit.
La première légende veut que Franz Kafka ait vécu seulement à Prague et que le travail et l'écriture aient été ses seules préoccupations. Mais la vie de Kafka était beaucoup plus intéressante que ça. Il s'adonnait au jardinage, il aimait aller au cinéma ou se promener en moto. Kafka était aussi un grand voyageur, il se rendait souvent en Bohême du Nord ou faisait des excursions aux alentours de Prague. Tout comme d'autres jeunes gens du début du XXe siècle, il a entrepris plusieurs voyages à l'étranger, en Suisse, en Italie, à Paris.
Une autre légende prétend que Franz Kafka ait habité la fameuse ruelle d'or près du château de Prague, car, faute de moyens financiers, il n'aurait pas pu se permettre un meilleur logement. À ce sujet, le magazine a noté.
La réalité est beaucoup plus complaisante que cette légende. Otla, la sœur de Kafka, avait un ami chrétien. Elle veut pouvoir le voir et la louer une maison dans cette ruelle. De temps en temps, elle l'a prêtée à son frère qui avait besoin d'un endroit calme pour son travail d'écrivain. Mais le soir, il rentrait régulièrement chez lui. Point étonnant, car l'intérieur de la maison était très modeste. Kafka habitait sur la place de la vieille ville ou la rue Tseletna au centre-ville.
Les Tchèques eux-mêmes semblent manifester nettement moins d'intérêt pour Franz Kafka que les étrangers. Une récente publication de bandes dessinées inspirées par des écrits de Kafka ou la création d'un groupe appelé Kafka Band font partie de nouvelles initiatives par lesquelles plusieurs artistes pragois veulent rapprocher, notamment des jeunes, le grand écrivain. Le 29 juin, 100 ans se sont écoulés depuis la naissance de Raphaël Kubelík, un des plus grands chefs d'orchestre tchèque du XXe siècle. Dans un texte consacré dans les pages du quotidien Lidové-Noviny, déjà cité à cet anniversaire, Jindřich Bálek souligne que c'était non seulement un grand artiste, mais aussi l'homme qui refusait tout compromis à l'égard du régime communiste. Il rappelle.
Nommé en 1942 directeur de la Philharmonie tchèque, succédant à son célèbre prédécesseur Václav Talich, c'est en été de l'an 1948, quelques mois après l'accès au pouvoir des communistes, que Kubelík a pris le chemin de l'émigration. N'hésitant pas à comparer le régime communiste au nazisme, son nom dans son pays d'origine a été dès lors entièrement effacé et tabouisé. Prague n'a pu accueillir Raphaël Kubelík que 40 ans plus tard. En 1990, il a inauguré le Festival de musique printemps de Prague, consacré traditionnellement à « Ma patrie » de Bedřich Smetana, tout comme il avait ouvert en 1946 la première édition du printemps de Prague. Tel un symbole de la liberté reconquise, le concert a offert à la fois un formement artistique.
Londres, New York, Munich, autant de villes et certaines autres encore dans lesquelles Raphaël Kubelík a brillé. L'auteur de l'article rappelle les chapitres clés de sa longue et fructueuse carrière. tout en considérant que les Tchèques doivent un plus grand intérêt à leurs célèbres compatriotes, qui pourrait se traduire, par exemple, par la création d'une monographie qui lui serait consacrée et qui manque encore.
Merci Alena, merci à toutes et à tous de votre attention. C'est déjà bientôt la fin du programme en français de Radio Prague. Retrouvez-nous sur internet au www.radio.cz. Quant à moi, je vous retrouve dimanche pour le dimanche musical.